Chapitre 13. Les deux enfants, montés sur leurs palefrois, leurs maîtres en croupe, s'enfuirent au palais en grand cortège. Le menu peuple sortait à leur passage pour les voir et prier pour le salut de ses droits seigneurs. Au palais, il ne manqua point de gens pour les aider à descendre, et quand ils entrèrent dans la salle, tous deux beaux et tels que doivent être des gentilshommes de haut parage, la tête haute, le regard fier et la main dans la main, beaucoup de chevaliers du royaume de Gannes, qui avaient appartenu à leur père, ne purent s'empêcher de pleurer de pitié. Le roi était assis à son haut manger, sur un riche fauteuil, dans la robe de son sacre. Devant lui, sur un support d'argent, à hauteur d'homme, sa couronne et son sceptre d'or et de pierreries. Sur un autre, une épée droite, tranchante et claire. Assurément, il eût paru prud'homme et fier à merveille, s'il n'eût eu le visage cruel et félon. Il fit bel accueil au fils du roi Bohort, et appelant Lionel, dont il admirait fort les manières et la contenance, il lui tendit sa coupe en l'invitant à boire. Mais l'enfant ne le voyait même pas. Il n'avait Dieu que pour l'épée luisante. Alors la pucelle s'arrête, s'avança, et lui posant les mains sur les joues, elle lui tourna doucement la tête vers la coupe. Puis, après l'avoir couronnée, ainsi que son frère, d'un chapelle de fleurs nouvelles et odorantes, elle leur passa au cou, à chacun, un petit fermail d'or et de pierreries. « Buvez maintenant, beau fils de roi, » dit-elle à Lionel. « Demoiselle, je boirai, » répondit-il, « mais un autre paiera le vin. » Sur ce, il prend la coupe. « Brise-la ! « Jette-la à terre !» lui crie son frère. Mais il la hausse à deux mains et en frappe Claudas de toute sa force en plein visage, si rudement qu'il lui ouvre le front. Puis, renversant le sceptre et l'épée, il saisit la couronne, la jette sur le pavé, l'écrase du talon, en fait voler les pierres. Voilà tout le palais en rumeur. Dorin s'élance au secours de son père gisant, tout couvert de vin et de sang. Les barons se lèvent, les uns pour se jeter sur les enfants, les autres pour les défendre. Lionel a ramassé l'épée, Bohort le sceptre, et tous deux s'en escriment à deux mains de toute leur force. Mais ils n'auraient pu durer contre tant de gens, si la vertu des fleurs que la demoiselle leur avait donnée n'eût empêché qu'aucune arme ne les pût blesser au sang. Et celle des fermailles, que nul coup ne leur put rompre les membres. Tous deux gagnaient vers la porte sous la conduite de Sared, lorsque Dorin, les voyant fuir, se précipite sur eux. Mais Lionel hausse l'épée, lui tranche le poing gauche qu'il a levé pour se protéger et lui coupe la joue et le col à moitié. Bohort, en même temps, lui ouvre la tête d'un coup de sceptre. Et Dorin tombe mort. À cette vue, le roi, qui avait grand courage, saisit l'épée d'un de ses chevaliers, entoure son bras gauche de son manteau et court su aux enfants, sans se soucier d'exposer sa propre vie entre tant de gens dont beaucoup le haïssaient. À le voir venir ainsi, terrible, Sared demeure un instant étonnée, mais elle se ressaisit juste à temps pour jeter un enchantement qui donne aux enfants la semblance de ces deux lévriers et aux chiens la leur. Et dans le même instant, elle se jette au-devant du roi, dont l'épée la blesse au sourcil. Elle emporta la cicatrice toute sa vie. « Ah ! Roi Claudas, » crie-t-elle, « j'ai chèrement payé ma venue en votre cour. Vous m'avez blessée et vous voulez tuer mes lévriers, qui sont les plus beaux du monde. » Le roi regarde, et il croit voir les deux enfants s'enfuir. Mais c'étaient les chiens qui se sauvaient, effrayés du tumulte. Il les poursuit, lève son armée pour les frapper au moment qu'ils vont passer la porte, mais ils la franchissent si lestement que l'épée s'abat vainement sur le linteau et vole en pièces. « Dieu soit loué, » dit-il en regardant le tronçon qui lui restait aux mains. « Si j'eusse tué de ma main les fils de Bohort, on me l'eût reproché éternellement, et j'en eusse été honni. » Lors, il fit saisir ce qu'il croyait être les petits princes et les remit en garde à ceux de ses gens en qui il se fiait le plus. Et s'il pleura ensuite la mort de son fils, il ne faut pas le demander. Mais Farien et Lambeg n'étaient pas moins dolents que lui, car ils ne doutaient guère que leur jeune seigneur, qu'ils croyaient pris, ne fussent sous peu livrés à la mort. Chapitre 14. Délivrance des enfants. Cependant, la demoiselle du lac, menant en laisse ceux que chacun tenait pour des lévriers, gagnait un bois proche où elle avait laissé ses écuyers. Et quand ceux-ci la virent revenir, blessée au visage, ils furent bien ébahis. Ils la pansèrent d'un simple linge, comme elle le leur commanda. Puis elle plaça le lévrier Lionel sur son palefroi, devant elle. Un de ses gens se chargea de Bohort. Et la petite troupe chevaucha à grande allure par les plus droits chemins. Elle ne s'arrêta qu'à la nuit pour héberger. Alors sa raide défit son enchantement. En voyant paraître deux beaux enfants à la place des chiens, ces gens n'en pouvaient croire leurs yeux. « N'avons-nous pas pris un bon gibier ?» leur demanda-t-elle. « Certes, la proie est bonne et belle, mais qui sont ces beaux enfants ?» Elle ne voulut point le leur apprendre, et si Lionel et Bohort furent choyés cette nuit-là, on le laisse à penser. « N'ayez crainte, mes enfants, » leur disait sa raide. « Vos maîtres n'auront point de mal, et ils seront bientôt auprès de vous. » Mais, à la vérité, du moment qu'elle tenait les fils du roi, peu lui souciait du reste. Au matin, elle se remit en route avec ses gens, et après avoir longtemps chevauché, elle parvint enfin au lac. Et lorsque la dame vit les enfants de Bohort, elle fut plus joyeuse qu'on ne saurait dire. Quant à Lancelot, il ne tarda pas à les préférer à tous ses compagnons, bien qu'il ignorât qu'ils fussent ses parents. Et, dès le premier jour, les trois cousins germains mangèrent à la même écuelle et reposèrent dans le même lit. Chapitre 15. Prise de Claudas. En apprenant que Claudas avait emprisonné leur droit seigneur, beaucoup de chevaliers du pays de Gannes et des bourgeois de la ville avaient couru aux armes, sous la conduite de Farien et de Lambeg. Claudas, cependant, ne songeait qu'à plaindre la mort de son enfant. « Beau très doux fils, disait-il en gémissant, beau chevalier preux sans mesure, si vous eussiez vécu, nul ne vous eût égalé, car vous aviez plus que personne les trois qualités par où un homme brille dans le siècle, débonnaireté, largesse et fierté. Et je ne vous aimais pas tant parce que vous étiez mon fils, qu'en raison de la grande valeur qui était en vous. Pour l'amour de vous, j'avais amendé mes anciennes façons. Et moi, qui jamais ne fus généreux, je l'étais devenu. Ah, certes, je n'attendais plus que ma propre prouesse ne valût aucune nouvelle conquête. Mais par votre grand courage, ne m'eussiez-vous mis au-dessus de tous, vous qui passiez tout le monde comme l'or, les métaux et le rubis, les pierres? Nulle force n'existe en comparaison de celle de Dieu. Aussi convient-il de souffrir ce qu'il nous envoie, hélas. Je m'émerveille de sentir mon cœur battre encore. » Cependant que Claudas lamentait ainsi, il entendit le grand tumulte que faisaient devant son palais les chevaliers et les bourgeois de Gannes, auxquels s'étaient joints beaucoup des barons de Benoïc, anciens sujets du roi Ban. Il n'avait avec lui que peu de gens de sa terre de la déserte pour le défendre. Mais il jeta un haubert sur son dos, laça son homme, pendit son écu à son col, ceignit son épée et prit une hache au fer tranchant et aux manches renforcées, car il était l'homme du monde qui savait le mieux s'en escrimer dans la mêlée. Puis il se fit voir à une fenêtre de son palais. « Farien, cria-t-il, que voulez-vous, vous et ces gens ?»« Sire, nous voulons que vous nous rendiez nos droits seigneurs, les fils au roi Bohort, à qui vous aviez juré de restituer ce royaume sous votre souveraineté. Chacun fasse donc du mieux qu'il pourra, car ils ne seront rendus devant que force m'en soit faite. Aussitôt, les arcs, les arbalètes et les frondes de commencer leur jeu, et les flèches, les carreaux et les pierres de voler en pluie sur le palais. Quand Claudas aperçut que ceux du dehors se préparaient à mettre le feu à la porte, il se fit ouvrir, et, accompagné des siens, il sortit à pied, la hache au poing, dont il commença de frapper à si grands coups que les assaillants reculèrent. À le voir ainsi mettre à mal ses compagnons, Lambègue sentait la colère le gagner. Tout à coup, il fait amener son destrier, l'enfourche, et armé de toutes armes, aume en tête, lance sur feutre, il charge Claudas à bride abattue. Il le frappe si rudement de son fer qu'il lui traverse l'épaule. Mais son cheval, emporté par son élan, vint heurter le mur de la tête et tombe mort, tandis que lui-même, tout étourdi du choc, demeure étendu à côté de sa monture. Cependant, Claudas, le tronçon de la lance dans l'épaule, perdant son sang, s'adosse à la muraille, sous une pluie de pierres et de flèches, et bientôt s'y affaisse sur les genoux. Déjà Lambègue, relevé et ranimé, lui courait su l'épée à la main pour l'achever, lorsque Farien l'arrêta par le bras. « Beau neveu, qu'allez-vous faire? Voulez-vous tuer l'un des meilleurs chevaliers et des plus braves princes de ce temps ?»« Comment, traître que vous êtes, prétendez-vous sauver celui qui vous a jadis honni et qui veut oxyre les fils de notre seigneur le roi Bohor? Certes, vous n'avez qu'un vieux et mauvais cœur au ventre. » « Taisez-vous, beau neveu, » reprit Farien. « Chaque méfait qu'il ait commis, on ne doit poursuivre la mort ou le déshonneur de son seigneur à moins de lui avoir loyalement repris sa foi. À celui-ci j'ai fait hommage. Je suis son homme. Mon devoir est de le garantir de la mort et de toute honte selon mes forces. Je ne cherche que le salut des enfants du roi Bohor, parce qu'ils sont les fils de mon ancien seigneur, et pour l'amour d'eux. » Claudas l'entendait. Il se mit à crier comme celui qui a grand-peur pour sa vie. « Beau doux ami, merci, voici mon épée. Je vous la rends comme au plus loyal chevalier qui soit, et je vous livrerai les enfants. Sachez que, les eussé-je même tenus dans ma cité de Bourges, ils n'auraient eu aucun mal de moi. » Ce mot finit la mêlée. Farien fit retirer les combattants des deux parts, et entra dans le palais avec Claudas, qui s'évanouit. Mais ses gens se hâtèrent de lui ôter son aume et de l'arroser d'eau froide, si bien qu'il reprit ses sens. Puis les médecins lui bandèrent et soignèrent ses plaies, comme ils savent faire, et il souffrit tout de grand courage. Cependant, la nuit était venue, et au moment même où Sarred désenchantait Lionel et Bohor, bien loin de là, les deux lévriers qui en avaient la semblance reprenaient leur forme première dans le palais de Claudas, au grand ébahissement de tout le monde et du roi lui-même. Lorsqu'il vit tout à coup deux chiens à la place des princes qu'on venait d'amener, Farien sentit une telle angoisse en son cœur que pour un peu il en fut mort. « Ah, sire Claudas, s'écria-t-il, vous aviez juré de me rendre les fils du roi Bohor, et vous me baillez ces lévriers. »« Hélas, répondit le roi, ce sont les deux lévriers que la demoiselle amena devant moi tantôt, et je vois bien qu'elle a enlevé les enfants par enchantement. Beau doux ami, ne m'accusez pas. Je suis prêt à me rendre votre prisonnier sur parole et à vous servir d'otage, jusqu'à ce que vous ayez nouvelle croyable de Lionel et de Bohor. Mais jurez sur votre foi de me garantir jusque-là. » Farien hésitait, car il craignait de ne pouvoir protéger le roi contre son neveu Lambègue qui le haïssait à mort, ni peut-être contre les gens de Gannes et de Benoïc qui ne l'aimaient guère. Et il pensait que, s'il arrivait malheur à Claudas après qu'il l'aurait pris sous sa garde, il en serait déshonoré à jamais. Aussi voulut-il consulter les barons avant de s'engager, et il fut sur la place leur soumettre le cas. Il faisait nuit, mais on avait allumé tant de torches et de lanternes qu'on y voyait comme en plein jour. « Comment, bel oncle ? » s'écria Lambègue après que Farien eut parlé. Vous voulez prendre sous votre garde le traître qui a tué nos seigneurs liges et qui jadis vous a tant méfait à vous-même? Si le peuple savait ce que je sais, vous ne seriez certes pas écouté. Beau neveu, que tu aies si peu de raison, je n'en suis pas surpris. Grand sens et grande prouesse ne font pas bon ménage à l'âge que tu as. Toutefois, afin que tu voies un peu plus clair au miroir de sagesse, je t'enseignerai ceci. À la bataille, n'attends personne et pique des éperons le premier pour accomplir, si tu peux, un beau coup. Mais au conseil, tant que tu seras jeune, garde de faire entendre tes avis avant que tes anciens aient parlé. Ces prud'hommes qui m'entourent savent mieux que toi où est raison. Je ne vois parmi eux nul baron qui n'ait rendu à Claudas, de bon gré ou de force, foi et hommage à main jointe, et qui ne doivent par conséquent garder le corps du roi et en défendre la vie comme la sienne propre. Car il n'est plus laide des loyautés que d'oxyre son seigneur. Si le suzerain a commis quelque méfait envers son homme, celui-ci doit le citer devant les barons à 40 jours. Et au cas où il ne pourrait le rappeler au droit, alors qu'il dénonce son hommage, mais publiquement, devant ses pairs, et non pas en secret. Encore n'a-t-il pas pour autant le droit de le tuer, car qui répand le sang de son seigneur est traître, et parjure, et meurtrier, et foi menti, à moins qu'il n'en ait eu meurtre ou félonie. Seigneur, si vous voulez jurer que Claudas n'aura rien à redouter de vous, quoiqu'il ait forfait, je le prendrai en ma garde et bataille. Sinon, chacun agisse de son mieux. Pour moi, je sais ce que je ferai. Or, me dites ce que vous décidez. » Les chevaliers de Gannes, après s'être consultés, se rangèrent à l'avis de Farien et jurèrent sur les saints de respecter l'avis de son prisonnier. Mais Lambeg s'était éloigné afin de ne pas faire le serment. Et quand il vit entrer Claudas, accompagné de son oncle, dans la tour où logeaient naguère les enfants, il n'y put tenir, et sautant sur un épieu qui se trouvait là, accroché à un râtelier, il en frappa le roi en pleine poitrine, d'une telle force qu'il lui faussa son haubert, et que Claudas, affaibli par ses blessures, tomba sur le sol. Aussitôt Farien dégaine l'épée que son prisonnier lui avait rendue et qu'il tenait à la main. D'un seul coup, il fend le haume de son neveu et lui déchire la joue en criant « Ah ! Vous êtes mort, traître ! Certes, vous m'avez déshonoré et me ferez tenir pour félon. » Il se préparait à redoubler sur Lambeg gisant lorsque sa femme courut se jeter entre eux en lui suppliant d'épargner la jeunesse de son neveu. « Tuez-moi plutôt, lui dit-elle, car il ne mourra pas sans moi devant mes yeux. » Alors Farien songea que jamais dans le passé il n'avait rien eu à lui reprocher. Et prenant pitié de son parent, il lui pardonna l'insulte qu'il en avait reçue, et il commanda à sa femme de le soigner. Mais ici le comte se tait de lui et de Lambeg, et parle des enfants qui sont en compagnie de Lancelot, leur cousin, auprès de la dame du lac. Chapitre 16. Farien et Lambeg au lac. 3 jours après leur arrivée au lac, Lionel et Bohor étaient en fort mauvais point, et à leur trouver si piètre mine, les yeux rouges et enflés, les joues creuses, la dame s'inquiéta. Mais elle les interrogeait en vain. Ils ne lui osaient rien dire. Au seul Lancelot qu'elle pria de s'en enquérir, ils avouèrent la vérité. C'est qu'ils ne pouvaient s'habituer à vivre loin de leur maître. « Eh non Dieu !» leur dit-elle quand elle sut ce qu'ils avaient. « Vous n'aurez point mal longtemps. J'enverrai chercher Farien et Lambeg cette nuit. Mangez donc, réconfortez-vous, afin que vos maîtres ne supposent pas, à vous voir si maigre, qu'on vous a laissé mourir de faim séant. » « Dame, dit Lionel, nous mangerons autant que vous voudrez si vous jurez sur votre foi que vous en verrez cette nuit même. » La dame le leur jura en riant, et sur le champ, elle appela une de ses demoiselles, non pas sa raide, mais une autre, à qui elle commanda d'aller à Gannes et d'en ramener Farien et Lambègue, mais si secrètement et par des chemins si détournés que personne ne put savoir où ils étaient allés. Et Lionel donna à la messagère sa ceinture et celle de son frère, afin qu'elle pût se faire reconnaître. Accompagnée de deux valets, elle chevaucha en toute hâte vers la cité de Gannes, et grande fut la joie des deux maîtres quand ils surent d'elle que leur seigneur était sains et saufs, et hors du pouvoir de Claudas. Ils s'empressèrent de rendre au roi sa parole et sa liberté, puis ils se mirent en route sous la conduite de la demoiselle. Le soir tombait quand ils arrivèrent à l'orée de la forêt de Brocéliande, et il faisait déjà nuit lorsqu'ils parvinrent au lac. En voyant la pucelle les mener droit à cette eau profonde et noire, ils s'émerveillèrent. Néanmoins, comme ils y croyaient entrer avec elle, le lac disparut et ils se trouvèrent devant la porte du château. Et il ne faut pas demander si les enfants eurent joie à revoir leur maître. Ils les embrassèrent plus de 100 fois. Sur ces entrefaites, Lancelot arriva pour le manger, car il avait passé sa journée dans les bois. La dame n'aurait jamais consenti à dîner ni à souper s'il n'avait tranché du 1er mai et versé à boire. Après quoi, elle lui permettait de s'asseoir. Il entra dans la salle, coiffé d'une couronne de roses vermeilles. Et l'on était pourtant au mois d'août, qui n'est plus le temps des roses. Mais le comte affirme que, tant qu'il demeura au lac, été comme hiver, il ne se réveilla pas une fois sans trouver un chapelet de roses fraîches à son chevet. Or, les vendredis éveillent des grandes fêtes et durant le carême. Jamais il ne put apercevoir qui lui apportait les fleurs, bien qu'il eût souvent fait le guet. Et chaque matin, depuis l'arrivée des deux enfants, il faisait 3 couronnes de ces roses, pour eux et pour lui. Le premier qu'il aperçut fut Bore, qui était assis sur les genoux de son maître. L'enfant courut à lui et lui dit joyeusement « Sire, voyez-ci mon maître qui est venu !» Puis la dame se leva devant lui, et tous ceux qui étaient là firent de même l'un après l'autre, car il lui portait très grand honneur. Après quoi, on vint aux tables pour manger, et quand Lancelot eut fait son service pour sa dame, il s'assit, et tout le monde ensuite, car nul n'eût été si hardi que de prendre place avant lui, non pas même les deux fils de roi. Chapitre 17. Les cousins. Le lendemain, au matin, après avoir entendu la messe, tous s'en furent en promenade dans les bois, bien escortés de chevaliers, d'écuyers et de sergents. Lancelot chevauchait à côté de sa dame, accompagné d'un valet qui portait son arc et ses flèches. Une petite épée, à sa mesure, était pendue à l'arçon de sa selle, et il avait toujours quelques javelots à la main qu'il lançait aux bêtes et aux oiseaux plus adroitement que personne. Alors Farien dit à la dame du lac « Pour Dieu, dame, gardez bien ces deux enfants, car ils sont les fils du plus prud'homme et loyal chevalier qui ait jamais été, hormis son frère Germain le roi Ban. Et quoiqu'ils soient de haute naissance par leur père, ils sont encore de bien meilleure souche par leur mère. Elle descend du grand roi David, en effet, et c'est par un chevalier né de ce lignage que la Bretagne doit être délivrée des merveilleuses aventures qui y adviennent présentement. Si vous pensez ne les pouvoir mettre à l'abri de leurs ennemis, dame, donnez-les-nous. Nous nous enfuirons, et s'il plaît à Dieu, ils recouvreront leur héritage. Car sitôt qu'ils pourront porter les armes, il ne se trouvera pas un homme au royaume de Gannes qui ne risque pour eux son corps et ses biens. » Lionel, en entendant ces mots, sentit de grosses et chaudes larmes lui sortir des yeux. « Qu'avez-vous, Lionel ? » lui demanda Lancelot. « Je pense à la terre de mon père, que je voudrais bien recouvrer. »« Fi, beau cousin, ne pleurez point par crainte de manquer de terre. Vous en gagnerez si vous avez du cœur. Songez à être assez preux pour conquérir votre bien par prouesse et par vigueur. » Tout le monde admira qu'un enfant pût tenir des discours si hauts. Mais la dame s'étonna surtout de l'avoir entendu appeler Lionel « beau cousin ». Elle assura à Farien qu'elle saurait garder en sûreté les fils du roi Bor et le pria de rester auprès d'eux, au lac, avec Lambègue, mais de ne jamais tenter de savoir qui elle était. Puis, quand on fut sur le retour, prenant Lancelot à part, « beau trouvé, lui dit-elle, comment eûtes-vous la hardiesse d'appeler Lionel cousin ?»« Dame, répondit Lancelot tout honteux, le mot me vint à la bouche par hasard, et je l'ai prononcé sans y prêter attention. Mais dites-moi, qui donc croyez-vous qui soit meilleur gentilhomme, de vous ou de lui ? Je ne sais pas si je suis gentilhomme de naissance, mais par la foi que je vous dois, je ne daignerai pas m'émouvoir de ce dont je l'ai vu pleurer. Si d'un homme et d'une femme est issue toute la race humaine, je ne vois qu'une noblesse, c'est celle que l'on conquiert par prouesse. Et si le grand cœur faisait les gentilshommes, je croirais être l'un des mieux nés. Beau fils, on le verra. Mais croyez que ce n'est que le défaut de cœur qui pourrait vous faire perdre votre noblesse. Soyez béni de Dieu, dame, pour me l'avoir dit, car je ne souhaitais rien de plus que d'être gentilhomme. » Par de telles paroles, Lancelot ravissait le cœur de sa dame. Et s'il n'eût été le grand désir qu'elle avait de son bien, rien ne l'eût peiné davantage que de le voir grandir et approcher du temps où il deviendrait chevalier et où il lui conviendrait de partir pour chercher des aventures au pays lointain. Alors Lionel lui resterait, mais il s'en irait à son tour, et Bor aussi la quitterait. Chapitre 18. Les mères. Longtemps les enfants vécurent ainsi, ensemble, sous la garde de la dame du lac et des deux maîtres. Et il advint enfin que le bon Farien mourut, sa femme expira à son tour, et leurs fils, Anguisse et Taran, reçurent plus tard la chevalerie de Lionel lui-même, et furent merveilleusement preux. Quant aux deux sœurs, les reines de Bénoïc et de Gannes, elles menèrent la plus pieuse vie du monde dans l'abbaye où elles étaient nonnes. La reine Hélène, mère de Lancelot, avait beau se livrer à toutes les pénitences, elle demeurait grasse et blanche et vermeille, et en si bon point que les étrangers ne pouvaient croire qu'elle menât une si dure vie. En revanche, sa sœur, la reine Évène, était si maigre, si pâle, si faible, que l'on craignait à toute heure du jour qu'elle ne perdît le souffle. Elle priait sans cesse Dieu qu'il lui fût donné de revoir ses fils avant de mourir. Une nuit, elle eut un songe. Elle se crut dans un jardin, où deux beaux enfants en escortaient un troisième, de plus grande apparence encore. Et quand elle se réveilla, elle trouva gravés dans sa main droite les trois noms de Lionel, Bor et Lancelot. Alors elle comprit que notre sire l'avait exaucée et qu'elle allait mourir. Au matin, elle fit appeler sa sœur, lui conta comment elle avait vu Lancelot avec ses deux fils et expira. Telle fut sa fin. Chapitre 19. La chevalerie. Jusqu'à 18 ans, Lancelot demeura en la garde de la dame du lac, et elle aurait bien voulu le retenir davantage, tant elle l'aimait. Mais elle savait qu'elle commettrait ainsi un péché mortel, aussi grave que celui de trahison, puisqu'il avait l'âge de recevoir la chevalerie. Un jour, peu après la Pentecôte, il tua à la chasse le plus grand cerf qu'il eût jamais vu, et qui se trouva aussi gras que si l'on eût été en août. Il l'envoya sur le champ à sa dame par deux valets. Mais lui-même, il demeura tout le jour, tant il faisait chaud, étendu sur l'herbe, à l'ombre d'un chêne. Vers le soir, il monta sur son cheval de chasse pour s'en revenir. Il avait l'air d'un vrai homme des bois, vêtu qu'il était d'une courte cotte verte, couronnée de feuillage, et son carquois à sa ceinture, car il ne s'en séparait jamais. mais il faisait porter son arc par un de ses valets. À le voir si beau, la dame sentit l'eau du cœur lui monter aux yeux. Et quand il entra dans la salle, elle se cacha la figure dans les mains, et, au lieu de la coller et de le baiser comme elle faisait toujours, elle s'enfuit dans la grande chambre. Lancelot la suivit. Il la trouva étendue sur un lit, qui pleurait. « Ah, dame, qu'avez-vous ? » lui dit-il. « Si l'on vous a fait quelque chagrin, comptez-le-moi, car je ne souffrirai point que nul vous peine, moi vivant. » Mais la dame sanglotait si fort qu'elle ne pouvait parler. « Fils de roi, éloignez-vous, dit-elle pourtant, ou vous verrez mon cœur me quitter. « Je pars donc, puisque ma présence vous chagrine si fort. » Sur ce, il sort, prend son arc, le pend à son cou, ceint son carquois, selle son cheval, et déjà il le tirait dans la cour, lorsque celle qu'il aimait plus que tout accourut, essuyant son visage et ses yeux rouges et gonflés, et saisit le cheval par la bride. « Vassal ! » s'écria-t-elle, « où voulez-vous aller ?»« Dame, en un lieu où je me puisse consoler. » « Où ? Dites-le par la foi que vous me devez. » À la cour du roi Artus, servir quelques prud'hommes jusqu'à ce qu'il me fasse chevalier. « Ah, beau fils de roi, désirez-vous tant d'être chevalier ?»« Certes, dame, c'est la chose du monde à laquelle j'aspire le plus. » « Si vous saviez quel grand devoir impose la chevalerie, vous ne l'oseriez souhaiter. » « Et pourquoi, dame ? Surpasse-t-il donc le cœur et la force d'un homme ?»« Oui, quelquefois. Notre sire Dieu a fait les uns plus vaillants que les autres, plus preux et plus courtois. »« Dame, il serait bien timide, celui qui n'oserait recevoir la chevalerie. Car chacun, s'il ne peut avoir les vertus du corps, peut du moins posséder celles du cœur. Les premières, comme la grandeur, la force, la beauté, l'homme les apporte en sortant du ventre de sa mère. Mais la courtoisie, la sagesse, la débonnaireté, la loyauté, la prouesse, la générosité, la hardiesse, c'est la paresse qui empêche qu'on ne les possède, car elles dépendent de la volonté. Et je vous ai souvent ouï dire que c'est le cœur qui fait un prud'homme. » Alors la dame du lac prit Lancelot par la main et l'emmena dans sa chambre. Et là, après l'avoir fait asseoir, elle lui dit « Les premiers chevaliers ne le furent point à cause de leur naissance, car tous nous descendons de même père et de même mère. Mais quand envie et convoitise commencèrent de grandir dans le monde, alors les faibles établirent au-dessus d'eux des défenseurs pour maintenir le droit et les protéger. À cet office, on choisit les grands, les forts, les beaux, les loyaux, les hardis, les preux. Et nul, en ce temps-là, n'eût été si osé que de monter à cheval avant d'avoir reçu la chevalerie. Mais elle n'était pas donnée pour le plaisir. On demandait aux chevaliers d'être débonnaires, sauf envers les félons. Pitoyables pour les souffreteux, prêts à secourir les besogneux et à confondre les voleurs et les meurtriers. Bon juge, sans amour ni haine. Et il devait protéger Sainte Église et celui qui tend la joue gauche à qui lui a frappé la droite. Car leurs armes ne leur ont pas été données sans raison. L'écu qui pend au col du chevalier et le garantit par devant signifie qu'il se doit mettre entre Sainte Église et ses assaillants et recevoir les coups pour elle, comme un fils pour sa mère. De même que son haubert levé et protège de toutes parts, ainsi doit-il couvrir et environner Sainte Église, de façon que les méchants ne la puissent atteindre. Son aume est comme la guérite d'où l'on surveille les malfaiteurs et les larrons de Sainte Église. Sa lance, si longue qu'elle blesse avant qu'on atteigne celui qui la porte, signifie qu'il doit empêcher les mal intentionnés d'approcher Sainte Église. Et si l'épée, la plus noble des armes, est à deux tranchants, c'est qu'elle frappe de l'un les ennemis de la foi, de l'autre les voleurs et les meurtriers. Mais la pointe signifie obéissance, car toutes gens doivent obéir au chevalier, et rien ne perce le cœur comme d'obéir en dépit de son cœur. Le cheval, enfin, est le peuple, qui doit porter le chevalier et fournir à ses besoins, et être au-dessous de lui, et qu'il doit mener à sa guise pour le bien. Il faut qu'il ait deux cœurs, l'un dur comme l'aimant pour les déloyaux et les félons, l'autre molle et flexible, comme la cire chaude, pour les bons et les débonnaires. Tels sont les devoirs auxquels on s'engage envers notre Seigneur en recevant la chevalerie. Et mieux vaudrait à un valet rester écuyer tout son âge que de se voir honni sur terre et perdu pour Dieu. « Dame, dit Lancelot, si je trouve quelqu'un qui consente à me faire chevalier, je ne craindrai pas de l'être, car Dieu voudra peut-être me donner les qualités qu'il y faut, et j'y mettrai tout mon cœur, et mon corps, et ma peine, et mon travail. « Oh non, Dieu, dit la dame en soupirant, votre vœu sera donc accompli sous peu, et c'est parce que je le savais que je pleurais quand je vous vis. Vous serez adoubé par le plus prud'homme qui soit. » De longtemps, elle avait préparé toutes les armes qu'il fallait à l'enfant. Un haubert blanc, léger et fort, un haut argenté et un écu couleur de neige, à boucle d'argent. L'épée, essayée en maintes occasions, était grande, tranchante et légère à merveille. Et la lance, courte, grosse, roide, au fer bien aigu, le destrier haut, fort et vif, la robe de Lancelot, son manteau fourré d'hermine, tout était blanc, et jusqu'à son escorte, vêtue de blanc, montée sur des chevaux blancs. En cet équipage, accompagné de Lionel, Bohort et Lambègue, Lancelot et la dame du lac se mirent en chemin, le mardi avant la Saint-Jean. Mais le comte récitera plus loin ce qui advint à la cour du roi Artus, et comment Lancelot y fut fait chevalier par la reine Guenièvre, et comment il se comporta. Expliquit.